RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Press, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté de TV5 Monde, Nadir Jénad de l'agence Reuters et puis Jean-Paul Agbo Aouileté de Focus Info, un hebdomadaire du Togo. Et c'est autour de trois sujets cette semaine. Au Burkina Faso, le démarrage plutôt laborieux du procès de l'ancien président Blaise Compaoré et de la presque totalité des membres de son dernier gouvernement. En Algérie, le premier bilan des élections législatives d'hier jeudi, au moment où nous enregistrons cette émission, nous n'avons pas encore de résultats provisoires. En tout cas, la participation avoisinerait celle de 2012, dit-on, et serait largement donc sous la barre des 50%. Et puis enfin, en RDC, le rassemblement de l'opposition, dernier bastion d'une transition et d'une alternance démocratique, refuse de signer l'arrangement particulier. Alors on se penche d'abord sur le procès à Ouagadougou de l'ex-président Blaise Compaoré et de 32 membres de son dernier gouvernement. Les accusés doivent répondre de la répression, de la révolte qui allait entraîner la chute du régime Compaoré fin octobre 2014. Alors, selon le bilan officiel, 20 personnes auraient perdu la vie dans ces événements. Un procès historique au Burkina Faso, Denise, et peut-être au-delà du point de vue exemplaire, mais un démarrage poussif et laborieux. Son ouverture a été renvoyée à deux reprises en l'espace d'une semaine seulement à la demande des avocats de la défense. Force est de constater que pour un procès historique, eh bien, son ouverture n'a pas été très maîtrisée.
C'est vrai, vous parliez d'un démarrage laborieux et il pourrait encore perdurer parce que on connaît déjà deux reports, mais le procès pourrait en connaître d'autres, car il y a des vices de procédure que la défense ne va pas se manquer de souligner, notamment la composition de la cour où siège un membre du Conseil d'État, ce qui est illégal. Et puis deuxièmement, c'est de refuser à l'avocat de Blaise Compaoré de le représenter. Or, tout le monde sait très bien que Blaise Compaoré ne pourra pas se présenter devant la justice burkinabé. Il a acquis la nationalité ivoirienne il y a un an et dans la loi ivoirienne, aucun Ivoirien ne peut être extradé. Donc Blaise Compaoré ne sera jamais présent à ce procès. C'est très important que la justice passe pour qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé ce 30 octobre 2014. Mais il ne faudrait pas que ce soit une justice sélective. Oui. Car aujourd'hui, seules les victimes de l'insurrection sont prises en compte, alors qu'il y a aussi des victimes qui ont subi cette insurrection. Et ce sont des Burkinabés au même titre que les autres. Voilà. Et par ailleurs, le Premier ministre aussi peut se retrancher. Le Premier ministre de l'époque, qui conduisait donc ce gouvernement, et notamment ce Conseil des ministres, au cours duquel la décision a été prise de réprimer justement ces manifestations par le RSP, pourrait également se retrancher derrière un décret national, notamment celui Luc Thiaw, un décret de 2005, qui prévoit que le gouvernement, en cas de manifestation, a le droit de s'appuyer sur les forces de maintien de l'ordre pour assurer la sécurité.
Alors, arrêtons-nous sur cette forme, sur ce démarrage laborieux, Nadir. Est-ce que ça ne risque pas justement de jeter le discrédit sur cette juridiction, une haute cour de justice, déjà juridiction d'exception, et sur les 9 membres de cette juridiction, 6 ont été nommés par l'actuel Parlement?
Oui, effectivement, cette haute cour de justice pose problème aussi par aussi un autre point, qui est que les victimes ne peuvent pas se porter partie civile au sein de cette instance. Les victimes ne seraient pas représentées comme partie civile au sein de cette haute cour. C'est vrai qu'elle pose problème, mais en tout cas il faut quand même saluer ce procès, qui est un procès historique, même si le démarrage est difficile, parce qu'il lance un message. Il lance un message auprès des opinions publiques, auprès des dirigeants africains, c'est que aujourd'hui il sera très difficile pour un président en exercice de vouloir modifier la Constitution et se représenter.
Voilà. Alors, Denise, effectivement, c'est un fait. Il est question d'engager également des poursuites contre l'ancien régime, à propos notamment de l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Dans ces conditions, évidemment, Blaise Compaoré serait de loin le seul à être convoqué à la barre. Normalement, on devrait également convoquer certaines personnalités, certaines figures toujours présentes à la tête du Burkina Faso. Allez, pour ne pas le nommer, Salif Diallo, par exemple, qui est président de l'Assemblée nationale.
Oui, effectivement, parce qu'à l'époque des faits, au moment de l'assassinat de Thomas Sankara, il était un allié de Blaise.
L'un
des idéologues du parti du CDP. Il y a quand même, pour revenir à ce procès, il y a quand même une lueur d'espoir. C'est qu'aujourd'hui, on sent que les Burkinabés veulent aller à la réconciliation. Il y a un an, l'actuel président a quand même mis en place un haut conseil de la réconciliation. Très récemment, on a entendu les anciens partis de la majorité qui appelle à la tenue d'un forum sur la réconciliation. Donc la justice passera certainement, mais ce qu'il faut espérer à la fin, c'est que peut-être les condamnés soient graciés.
Mmh. Ajoutons d'ailleurs que le CDP, hein, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré, vient d'être associé à une nouvelle plateforme de l'opposition qui comprend...
Oui, qui s'appelle 30, le CODER.
Exactement,
le CODER.
Qui comprend 32 forces politiques. Oui, Nadir.
Oui, effectivement, on peut craindre qu'il y ait une espèce d'arrangement entre l'actuel pouvoir et puis le parti de M. Compaoré. Rappelez-vous la visite du président Kaboré en Côte d'Ivoire, où il y a eu vraiment une reprise des relations très très fortes entre les deux pays, avec la signature de nombreux contrats économiques. Donc les deux pays ont des intérêts communs, et j'ai le sentiment que Blaise Compaoré fait partie un petit peu de ces accords, c'est-à-dire que...
Il va falloir le laisser tranquille,
voilà. Et s'il a pris la nationalité ivoirienne, je pense que c'est effectivement pour cela.
Mais ajoutons que son épouse est d'origine ivoirienne et que donc, semble-t-il, il a droit à cette nationalité ivoirienne. Soulignons qu'il est question d'un mémorial, Thomas Sankara, et que le comité destiné à l'édification de ce mémorial n'est autre que l'ancien président Jerry Rawlings, président du Ghana. Et le mausolée, le mémorial en question, la première pierre devrait être posée, dit-on, en octobre prochain. RFI TV 5 Monde, Afrique Presse, on passe aux élections législatives algériennes d'hier jeudi. 23 millions d'électeurs appelés aux urnes. Pour beaucoup d'Algériens, le résultat du scrutin est, semble-t-il, couru d'avance et la crise économique provoquée par la chute des prix du pétrole et ses conséquences sociales n'aurait pas sans doute incité les électeurs à voter massivement. On écoute, on voit le sujet de Sophie Roussy de TV5 Monde.
Si les affiches électorales ont envahi les rues d'Alger, les préoccupations sont ailleurs. Trouver un emploi et subvenir au quotidien. Car depuis plusieurs mois, les taxes augmentent, les subventions baissent et le chômage grimpe. Surtout chez les jeunes, l'Algérie est un pays de jeunes, mais 26% sont sans emploi.
C'est ça le paradoxe de l'Algérie, c'est que c'est un pays extrêmement riche, mais dont la distribution se fait de manière totalement chaotique, pas très coordonnée et pas rationnelle. On a quand même une jeunesse qui est la plus touchée par le chômage, avec parfois des taux de chômage dans certaines classes d'âge qui peuvent atteindre 60% dans certaines régions, dans certaines zones du pays, ce qui est considérable, ce qui évidemment est une bombe à retardement.
En témoigne la grogne sociale qui s'est emparée de plusieurs wilayas ces derniers temps, car pendant de longues années, l'Algérie a compté sur sa rente pétrolière, les hydrocarbures, le sang de l'économie, 60% des recettes de l'État. Mais ces recettes fondent. Le prix du baril chute et le pays propose peu d'alternatives.
Maintenant que le pays est dans une situation sur le plan des recettes budgétaires qui est beaucoup plus délicate, évidemment c'est beaucoup plus difficile de faire des réformes. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre par exemple en place des filets sociaux, parce qu'on sait très bien comment ça va se passer. Il faut dégraisser dans les grandes entreprises publiques, il faut donner de la cohérence d'ensemble à l'économie algérienne. Aujourd'hui on ne fabrique même pas une petite cuillère en Algérie.
L'Algérie importe beaucoup et fabrique peu de produits de première nécessité. Un virage radical doit être insufflé au risque de voir la situation dégénérer à la vénézuélienne.
Voilà, les précédentes législatives de 2012 en Algérie avaient été marquées par une forte abstention, 43% de taux de participation seulement à l'époque, d'après les chiffres officiels, lesquels étaient contestés d'ailleurs. Alors, au moment où nous enregistrons Afrique Presse encore une fois ce vendredi matin, eh bien, les résultats du vote, les résultats provisoires ne sont pas connus, mais la participation devrait avoisiner au mieux celle du précédent scrutin, donc très 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 nettement sous la barre des 50%. D'abord un mot, Denise Epoté, à propos de l'apparition du président Bouteflika en chaise roulante, en train de voter sa première apparition publique depuis sa réélection controversée de 2014.
Donc c'est bien la preuve que l'objectif principal de ces législatives, c'est encore d'envoyer un message à la communauté internationale pour lui dire que malgré l'état de santé de Bouteflika, le pays est tenu et puis surtout... Le calendrier électoral est respecté, mais tout le monde sait très bien, vous le rappelez, le taux d'abstention sera certainement identique à celui ou supérieur à celui de 2012. Mais depuis 2014, depuis la dernière présidentielle, les Algériens se désintéressent totalement de la politique. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de voir comment le FLN et le RND vont pouvoir s'accorder sur une plateforme pour pouvoir gérer justement cette crise socio-économique dont parlait le chercheur dans le reportage, mais surtout pour commencer à préparer l'après Bouteflika.
Alors, crise socio-économique, immobilisme politique, Nadir, où va l'Algérie? Est-ce qu'à l'aune de ces élections législatives, on peut s'attendre à un déclic ou est-ce que, après tout, les résultats, une fois de plus, sont courus d'avance?
Oui, alors, il faut dire que pour les Algériens, s'il n'y a pas d'enjeu, c'est que en Algérie, l'Assemblée nationale a très peu de pouvoir. C'est juste une chambre d'enregistrement des décisions qui sont prises par le président de la République. Et les Algériens s'intéressent uniquement à l'état de santé de l'actuel président Abdelaziz.
Pardonnez-moi, sauf si l'Assemblée était dominée par l'opposition.
Sauf si l'Assemblée était dominée par l'opposition, mais on voit mal l'opposition dominer cette Assemblée. On se dirigerait vers une Assemblée identique à celle de 2012, à savoir les partis faisant membres de la coalition, le FLN et le RND. L'interrogation se posera un peu sur le score que réaliseront les partis islamistes, mais on se dirigerait vers une assemblée identique. Pour l'instant, effectivement, je pense que moi, la question économique est centrale. C'est-à-dire que le pays connaît une grave crise économique en raison de la chute des cours du pétrole. Et en Algérie, il y a quand même une tradition de l'émeute. C'est-à-dire que lorsque il y a une crise économique, lorsque les prix montent de manière assez forte, les gens descendent dans la rue et manifestent. Le problème, c'est qu'ils manifestent dans plusieurs régions assez éloignées du pays, notamment dans le sud, dans la région de Ouargla, par exemple, dans le sud du pays, et pas dans les régions proches d'Alger. Donc on peut s'attendre, effectivement, s'il y a, par exemple, de très fortes hausses de prix concernant les denrées, on peut s'attendre à de nouvelles émeutes.
Il y a l'inflation.
À nouvelles émeutes et qui donneront encore une mauvaise image du pays.
Jean-Paul, donc sur cet immobilisme et puis ce tableau très sombre, hein, la situation économique du pays avec ses conséquences.
Tout à fait, on a vu avec l'image qui vient d'être projetée, sa caricature à l'extrême.
L'image du président Bouteflika en train de voter,
en chaise roulante, sa caricature à l'extrême, la situation politique de l'Algérie, l'immobilisme, une situation figée, où on ne voit pas du tout comment, finalement, on peut espérer une alternance face à une formation politique, le FLN, omniprésente, omnipotente, et puis finalement une société civile qui continue à se battre, mais qui n'a plus les armes parce que poursuivie, parce que n'ayant pas d'espace politique pour s'exprimer, et puis aussi un espace médiatique aujourd'hui réduit. Donc on a peur pour l'Algérie. Sauf à espérer, peut-être dans les prochaines années, même si il semble qu'un cinquième mandat est envisagé,
dans
à espérer
pour le président
une
Bouteflika,
recomposition du paysage politique post-Bouteflika.
Oui. En tout cas, ils ont un vieux président, mais un président optimiste, puisqu'on parle effectivement de Nice d'un cinquième mandat. On constatera tout de même, à l'aune de ces élections, que les partis laïques traditionnels de l'opposition, comme le FFS, n'existent quasiment plus sur l'échiquier politique. Par ailleurs, Ali Benflis, l'ancien Premier ministre, a lui purement et simplement boycotté ces élections.
Est-ce que la politique de la chaise vide porte des résultats? Je ne pense pas. Même si les partis qui dominent la scène politique algérienne aujourd'hui sont le FLN et son allié, le RND, je pense qu'il aurait été important pour Ali Benflis de participer à ce scrutin, justement, pour montrer qu'un changement était possible, un changement au sein du Parlement.
Nadir.
Alors, le changement aussi peut venir de l'intérieur. Il peut y avoir, par exemple, des personnalités au sein du FLN ou au sein du RND qui préconisent, par exemple, des changements, de faire une ouverture envers la société civile, une ouverture envers les partis de l'opposition. Ce n'est pas à exclure. Il y a quand même des personnalités au sein de cette mouvance présidentielle qui seraient plus favorables, par exemple, à une ouverture vers l'opposition, à faire certaines réformes. Donc, ce n'est pas à exclure, mais effectivement, là, pour l'instant, la situation est assez figée. Et comme je le disais au début, c'est l'état de santé du président Bouteflika qui préoccupe essentiellement les Algériens.
La grande interrogation aussi, c'est que va faire la classe militaire. L'appareil militaire.
Voilà. Et l'on passe au dernier sujet d'Afrique Presse. La RDC, la République démocratique du Congo, et le feuilleton de la pré-transition, si l'on peut dire. Après la nomination controversée par le président Joseph Kabila de Bruno Tshibala comme nouveau Premier ministre, la majorité présidentielle ainsi qu'une fraction de l'opposition ont adopté l'arrangement particulier censé ordonné cette transition, mais les forces du rassemblement autour de Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi et Moïse Katumbi, toujours en exil, refusent de signer le texte. En gros, Denise, hein, ces personnalités estiment que rien n'a bougé depuis l'accord politique du 31 décembre 2016, négocié, comme on le sait, sous la houlette des évêques catholiques congolais.
Rien n'a bougé parce que il faut le reconnaître, hein, même si on dénonce un peu l'attitude de Kabila, il faut reconnaître qu'il joue finement. Parce qu'aujourd'hui, il a réussi à ne plus faire du rassemblement un bloc soudé, puisqu'aujourd'hui, plusieurs membres de ce rassemblement politique sont aujourd'hui, deviennent des partisans et des alliés de Joseph Kabila. Je
pense notamment. Mais les piliers sont là quand même.
Les piliers sont là, mais il y a quand même Moïse Katumbi qui est en exil forcé en Belgique. Il y a le fils Tshisekedi qui aujourd'hui se retrouve un peu isolé. Mais Vital Kamerhe milite pour un arrangement particulier. Hein. On notera au passage que cette crise congolaise a permis d'enrichir notre vocabulaire politique, parce qu'après le glissement, voici l'arrangement particulier. Il y a le président du Sénat qui est aujourd'hui aussi un modéré, Kengo Watondo.
Mais
il y a
également de l'époque Mobutu.
Un ancien de l'époque Mobutu, mais il y a surtout le demi-frère de Moïse Katumbi, Katebe Katondo, qui aujourd'hui soutient cet arrangement particulier.
Donc, un drame shakespearien.
On voit bien que Kabila a finement joué. Mais est-ce qu'il arrivera au terme de cette année qu'avait arrêté l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire fin 2017, à reconnaître qu'aujourd'hui le glissement lui avait permis d'arriver jusqu'en décembre 2017, mais qu'il faut organiser des élections? Je crois qu'il n'en prend pas le chemin. On ne voit personne aujourd'hui pour lui forcer la main.
Voilà, alors le président Kabila, la majorité, cette fraction de l'opposition qui aujourd'hui est devenue quasiment son meilleur allié, s'achemine à marche forcée vers cette transition. Ces élections restent tout à fait aléatoires à la fin de l'année. Alors, comment, je dirais, ramener les compteurs à zéro? Comment sortir de l'impasse? Comment permettre une transition inclusive avec le rassemblement? Alors, il y a Martin Fayoulou, un des leaders de l'opposition, qui en appelle aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Mais que peut faire l'ONU là où la CINCO, les évêques du pays, finalement, ont échoué à faire entendre raison à Kabila et à ses partisans?
Effectivement, la communauté internationale a déjà réagi à de nombreuses reprises face à la situation en RDC, la France, les États-Unis, d'autres pays, et effectivement, comme vous le disiez, le président Kabila reste insensible. Mais il faut quand même souligner que moi j'ai le sentiment quand même que les deux parties sont perdantes. Que vaudra cet accord s'il est signé sans l'opposition, mais aussi l'opposition, si elle est exclue du jeu, reste aussi à la marge. Moi j'ai le sentiment que l'Église a encore un rôle à jouer, et d'ailleurs c'est ce qui a choqué une partie de l'opposition, parce que cet accord, cet arrangement particulier a été signé devant les deux chambres, à la fois devant le Parlement et le Sénat, n'a pas été approuvé par la CINCO. Je pense que l'Église a un rôle à jouer, peut encore continuer son rôle de facilitateur et de médiateur.
À condition que
Kabila l'écoute, parce qu'elle a adressé un courrier à Kabila, voilà, et elle attend toujours la réponse.
Alors, un point important, Denise, avant de refermer cette édition d'Afrique Presse, c'est ce rapport de la CINCO à propos du cas de Moïse Katumbi, une enquête des évêques, qui a été remise à Joseph Kabila fin mars, et qui démontre l'ensemble des affaires politiques qui ont contraint à l'exil l'ancien gouverneur du Katanga. Et ce rapport conclut un règlement de compte purement politique.
Absolument. Et demande que Moïse Katumbi rentre en RDC en homme libre pour pouvoir justement se défendre devant la justice congolaise. Aujourd'hui, Kabila n'a toujours pas répondu à la lettre que lui ont adressée les évêques. C'est un mauvais signe, je pense.
Voilà. Oui, Nadir, à propos donc de ce rapport, d'ailleurs, qui avait été rédigé dans le cadre de la décrispation.
Oui. Moi, je dirais que Moïse Katumbi est quand même, après la mort d'Étienne Tshisekedi, quand même la figure de l'opposition aujourd'hui. Et il a un rôle à jouer s'il rentre au pays, mais bien entendu, faut-il qu'il y ait des garanties à la fois pour sa sécurité et pour son avenir, qu'il puisse s'exprimer et puis débattre sereinement en RDC. Aujourd'hui, ces conditions-là ne sont pas réunies. Effectivement, le président n'a pas répondu à cette lettre.
C'est la fin de cette émission. Merci Denise Epoté, Nadir Jenat, et à vous Jean-Paul Agbo, à où il était, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.